Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Je pense qu'il y aura peut-être des retardataires, mais on verra bien.
Ils s'asseront au premier rang.
Oui, voilà. Donc, merci, Madame Ernoux, d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, je voudrais juste présenter un tout petit peu notre association, donc une association de parents endeuillés d'enfants. Nous sommes tous bénévoles et nous recevons les parents qui veulent venir parler de leur enfant. Donc nous avons une permanence tous les premiers mardis de chaque mois à l'UDAF, ici à Poitiers. Possibilité de le faire aussi dans les Deux-Sèvres. Parce que la mort d'un enfant, ça bouleverse tout. Enfin, bon, je laisse imaginer. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de parents endeuillés ici. Et donc, voilà, notre association est là, sur Poitiers. Et si vous avez besoin, il suffit de nous contacter. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser la parole.
Ben, moi, je vais en dire des choses après. Donc, vous allez voir. Bonsoir à chacun et chacune. Et merci à l'association Jonathan Père Vivante de m'inviter à vous parler ce soir d'un sujet pas facile, rester en lien, après la mort de son enfant, rester en lien, en couple, en famille et avec l'entourage. Et c'est un vrai travail, ça se fait pas de manière naturelle et spontanée. En tout cas, Jonathan, je me demandais tout à l'heure, depuis combien de temps vous existez, Jonathan ? 30 ans.
30 ans sur le plan national et puis ça fait quoi, une vingtaine voilà. D'années sur Poitiers ?
Donc moi, ça fait 25 ans que je suis en lien avec vous et avec les antennes de Jonathan Pierre Vivante. Et je suis toujours très touchée par la qualité du travail d'accompagnement qui est fait au sein de votre association. Et je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent, j'ai l'impression, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à faire connaissance avec les organisateurs de cette conférence, à l'issue de la conférence. Alors moi, ce que je vais vous dire ce soir, c'est le fruit de 3 expériences. Une expérience personnelle, puisque nous avons perdu il y a 28 ans, ça fait les années s'écoulent et on les voit presque pas passer, une petite fille de 7 ans qui était la troisième de nos 5 enfants. Géraldine est morte de cancer et elle allait avoir 7 ans. Une expérience associative, puisque à la suite de ce décès, on a cherché, nous en France, qui faisait de l'accompagnement des parents. On s'était sentis très seul à l'hôpital, et on n'a pas trouvé grand-chose qui existait à l'époque à domicile, parce que notre idée, c'était, qu'on s'est senti très seul à l'hôpital, et on s'est surtout senti très seul à la maison, en fait. Parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui passent, bon, mais à la maison, c'était très difficile. Donc notre idée, c'était le domicile. Comme on n'a pas trouvé, on a fondé en 86, avec mon mari, une association qui s'appelle Choisir l'Espoir, et qui a fêté samedi dernier ses 25 ans d'existence, avec des antennes dans 7 villes du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est une association plutôt nordique. Et de cette association est née une deuxième, ça devient une maladie chez les Ernoux, qui s'appelle « Apprivoiser l'absence », du titre du livre que j'ai écrit, et qui, elle, est en région parisienne à Nantes et va ouvrir à Bruxelles, là, et qui s'occupe, un peu comme Jonathan, des parents endeuillés, mais principalement en offrant des groupes d'entraide. Voilà, je crois que vous en avez aussi. Non, vous avez plutôt des journées ou des groupes d'entraide, je ne sais pas. Enfin, je vous expliquerai ce que c'est qu'un groupe d'entraide. Donc ça, c'est la deuxième expérience. Et la troisième expérience, c'est qu'à partir de ça, nos enfants nous font quand même faire des chemins. Moi qui étais prof d'anglais, je me suis retrouvée engagée dans une association de soins palliatifs, enfin pas dans une association, dans une équipe de soins palliatifs à domicile, comme représentante des familles et animatrice de cette équipe, et c'est le centre François-Xavier Bagnoux, dont peut-être certains ont entendu parler, à Paris, et j'y ai travaillé 10 ans. Comme animatrice de groupe de deuil, comme je recevais aussi des gens en entretien, et puis je faisais de la formation aux soins palliatifs pédiatriques dans les hôpitaux de France et de Navarre, de Belgique aussi. Donc voilà, c'est ces 3 expériences qui m'ont permis d'entendre beaucoup de parents et qui me permettent de vous parler ce soir. Parce que comme vous le disiez là tout à l'heure, la mort d'un enfant, elle touche vraiment à nos sécurités de base. Et elle touche à nos forces de vie. Elle les ébranle de manière très très forte. C'est vraiment un séisme dont on ne se rend compte que quand on le vit, et que ça ébranle toute notre vie de couple, tout l'édifice de notre vie de couple, de notre vie de famille. C'est tout un pan de vie de notre entourage, de notre vie sociale aussi. C'est compliqué de rester en lien socialement. Et voilà que cette mort, qui est la rupture d'un des liens fondamentaux de notre vie, elle va mettre en danger tous les liens qu'on a tissés avant la mort de cet enfant et tous les liens qu'on essaie de tisser après sa mort. Donc c'est ennuyeux quand ça nous arrive et ça mobilise toute notre énergie. En préparant cette conférence, quand je l'avais préparée, j'étais tombée sur une phrase d'un psy, que je ne connais pas d'ailleurs, Georges Routhier, mais par éthique, je cite son nom, qui dit « Qu'est-ce que c'est que l'attachement ?» Et il a une formule que je trouve originale sur l'attachement. Il dit « Ça n'est ni l'amour, ni la haine, ni l'indifférence, l'attachement. C'est le temps. Des liens sont tissés par le temps. Et à force de repasser sur une même place, de revoir une même personne, des fils invisibles nous lient à cette place, nous lient à cette personne. Et la totalité de ces liens forme un filet, dit-il, sur lequel notre quotidien s'appuie. Le deuil, ajoute-t-il, c'est le processus inverse. C'est une période où les liens se défont, en tout cas les liens de cette réalité physique et visible dans lesquelles nous évoluons, une période pendant laquelle les fils se cassent. Voilà. Et d'où la difficulté, d'ailleurs, en voyant cette phrase, d'où la difficulté du deuil périnatal, du deuil du petit bébé à la naissance ou en cours de grossesse, parce que le temps n'a pas été long. Mais pourtant, les liens sont là. Il s'est passé des tas de choses dans le désir de cet enfant, dans le projet de cet enfant, dans la conception de cet enfant, dans les mois où on l'a attendu. Tout ça, c'est le petit temps du deuil périnatal sur lequel on va pouvoir s'appuyer quand même. Alors, c'est quel danger elle fait courir cette rupture des liens ? Quel danger elle fait courir à nos liens, cette rupture de liens avec notre enfant ? Comment préserver ces liens ? Pour ne pas tomber dans l'isolement et la marginalisation qui sont source de souffrance. Tous les parents pourront le témoigner. D'ailleurs, l'isolement est toujours une source de souffrance dans quelques difficultés que nous rencontrons. J'avais envie de m'interroger avec vous ce soir, d'abord sur quelles difficultés rencontrons-nous en couple, en famille, avec l'entourage, lors de la rupture de ce lien, après la rupture de ce lien avec notre enfant. Et on va commencer par le couple. Alors, ce que je voudrais vous dire ne concerne pas que les parents qui vivent en couple, qui sont ensemble à la mort de leur enfant. Parce qu'il me semble qu'un enfant, c'est toujours une décision à deux, quelque part. Il est conçu à deux, quelles que soient les circonstances de cet événement, et sa mort va réveiller pour nous tout ce qui touche à cet élan voulu, quelquefois pas voulu, aussi, ce qui complique les choses, même si un des conjoints n'est plus là à cause d'une séparation, d'un divorce, d'un veuvage. C'est quand même à deux. Donc on est concerné dans cette vie de couple. Alors dans la vie du couple, la mort de l'enfant, c'est d'abord un pan entier de notre vie, notre amour, avec toutes ses joies, ses difficultés, avec les ombres et les lumières. Tous les gens qui sont en couple dans cette salle savent que c'est difficile, une vie de couple. Eh bien, c'est tout un pan de cet amour qui sombre, et qui sombre à tout jamais. Et subitement, le temps d'un dernier souffle auquel on a assisté ou auquel on n'a pas pu assister, et ça c'est aussi quelque chose de très difficile, eh bien il ne reste plus que quelques traces, quelques photos, quelques textes, quelques objets, qui vont très vite devenir dérisoires, totalement dérisoires. Donc un pan entier qui sombre. La mort de notre enfant, elle nous prive aussi de l'ouverture sur l'autre, de l'altérité. Vous savez que nous ne pouvons grandir, avancer dans la vie que si nous sommes en contact avec l'autre, avec l'altérité. Si nous sommes toujours avec du même, entre guillemets, alors on s'étouffe. Et l'enfant, c'est celui qui, dans un couple, va venir ouvrir ça, va venir nous ouvrir sur l'altérité. Alors bien sûr, il y a plein de façons de s'ouvrir à l'altérité dans un couple, mais l'enfant, c'est une façon très privilégiée. Il a une place privilégiée dans cette ouverture. Eh bien voilà, ça aussi, on est privé de ça via cet enfant-là. La mort d'un enfant, elle nous ampute d'une partie de nous-mêmes. Et c'est vrai que vivre avec une partie de soi qui est morte, eh bien c'est difficile, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas donné non plus. Vivre avec une partie de soi qui est morte et garder vivantes les autres parties, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de ne pas laisser la mort nous manger complètement et faire que nous ne soyons plus vivants. Donc ça, c'est aussi quelque chose de difficile. Et comme me le disait une maman, eh ben malheureusement, ça fait pas mourir cette expérience-là. Et quelquefois, on aimerait, on souhaiterait que ça nous fasse mourir. Donc on va essayer de vivre avec cette partie morte en gardant vivant les autres parties. La mort d'un enfant, et je voudrais en parler ce soir en abordant les problèmes du couple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on en parle. Elle a également un impact qui est souvent tenu secret, un peu tabou, sur ce lieu important de la vie d'un couple qui sont les relations sexuelles. Et cet impact peut se manifester de diverses façons. Mais voilà les deux façons que moi j'ai vues, dont j'ai été témoin, celles que j'ai vécues aussi. Soit par un refus des relations, parce qu'elles sont perçues comme une trahison. Être bien, prendre soin de soi, être bien, il n'y a pas d'autre terme. Alors que notre enfant, lui, est mort et ne profite plus de la vie, c'est pas possible. Ça n'est plus possible. Donc, il y a un refus de ces relations. Une maman me disait, ou j'ai écrit ça quelque part, en tout cas c'est une parole de maman, « Comment puis-je oser penser à moi, prendre du plaisir pour moi, alors que mon enfant est mort ?» Comment faire de la place en moi pour accueillir l'autre qui a tant besoin de vie? Comment ne pas être obsédée par le fait que donner la vie à un enfant, c'est aussi permettre sa mort, éventuellement avant nous, ce qui n'était même pas représentable. Pour ne pas prendre ce risque une deuxième fois, je ne veux plus entendre parler de ces relations qui touchent de si près à la vie. Ça, c'est une parole de maman. Une autre disait « Je suis si pleine de cet enfant que je ne peux plus accueillir mon mari. » Très, vous voyez les paroles fortes. De nombreux parents ont témoigné, et je les ai entendus, de la réelle angoisse de se dire que plus jamais on ne sera heureux dans ce domaine. Et de l'inquiétude aussi de sortir de la normalité de la vie, parce qu'autour de nous, les gens continuent à vivre et à avoir une vie. La deuxième façon de réagir, c'est une augmentation de la libido, au contraire. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu où je suis vivant. C'est un lieu où je sens que je vis, si vous voulez. Et que du coup, je vais avoir besoin encore plus de me sentir vivant. Pour certains parents, c'est ça, cette relation sexuelle, c'est ce lieu rassurant hein, où je vis. Et du coup, on va avoir un déséquilibre dans la vie du couple avec des désirs différents, des demandes différentes. Ça va poser souvent des questions difficiles. Je me rappelle d'un couple que j'avais accueilli qui avait perdu leurs deux enfants dans l'incendie de leur maison. Et ce papa arrivait toujours au groupe fatigué, en nous disant « J'ai l'impression que je ne suis plus qu'une machine à reproduction avec ma femme. » Parce qu'elle le poursuivait pour être enceinte et combler ce vide insupportable, cette maison vide, pas de cris d'enfant quand elle rentrait du travail, plus d'affaires d'enfants qui traînaient. Elle disait « je peux plus rentrer chez moi, donc je veux un enfant ». Et ça ne venait pas, et on peut comprendre que peut-être c'était pas simple. Et ce pauvre homme avait l'air vraiment très fatigué. Et c'était sa femme, vous voyez, c'est pas toujours les hommes qui sont demandeurs, là c'était sa femme. Donc voilà, une grande disparité dans les demandes dans ce domaine. Et c'est quand même sur ça aussi que se fondent nos couples et cette vie-là, quand elle est perturbée à ce point, c'est extrêmement difficile. Et puis une dernière chose, en couple, je pense que nous nous trouvons confrontés après la mort de notre enfant aux limites de notre amour et aux limites de notre capacité à nous entraider. Pouvoir entendre l'autre nous dire « tu es là, mais ça ne change rien à ma souffrance ». J'ai toujours envie de mourir. et ça ne change rien non plus au fait que ma vie n'a plus de saveur, mais pourtant tu es là. Eh bien, c'est difficile à recevoir. Et c'est un petit peu ce que chacun des deux membres du couple dit à l'autre. Bien sûr, tu es là. Et bon, c'est bien, mais ça ne fait plus le même effet qu'avant, en fait. Donc, on touche à ses limites. Voilà, j'aime l'autre, je voudrais pouvoir l'aider, pouvoir lui sortir la tête de l'eau, mais je ne peux pas. Hein. Simplement, je peux être présent. C'est tout ce que je peux faire. Et je pense qu'une belle présence près de soi, c'est déjà un beau cadeau qu'on peut faire à l'autre. Hein. Et puis dans le couple aussi, la dernière chose qui est très très difficile, c'est que la mort de l'enfant va nous confronter à la différence radicale entre le masculin et le féminin. Certes, on avait quelques idées quand même, parce que si on s'était engagé en couple, c'est parce que justement, on est attiré par ce qui nous complète, par ce qui nous manque, par la façon dont l'autre vit les choses différemment. Mais alors là, ça va atteindre des sommets. Parce que vraiment, le deuil au féminin, le deuil au masculin ne s'exprime pas du tout de la même façon. Et quand je dis au féminin et au masculin, il y a des femmes qui sont plus masculines, enfin qui vont exprimer leur deuil aussi de façon masculine, et vice-versa, des papas qui sont très fins, très féminins, qui laissent leur féminité vivre. Donc voilà, c'est juste deux façons. Il va y avoir des gens qui ont besoin de faire, se défoncer dans le sport, dans l'activité, dans la vie professionnelle. Il va y avoir des gens qui ont besoin d'être en silence, de ne pas parler. Et quand ils vont rentrer et qu'ils vont se heurter à un conjoint qui veut qu'on parle, il faut qu'on en parle, tu n'en parles jamais, ça devient difficile. Hein. Donc voilà, pour le couple, vous voyez, ça fait beaucoup de dangers de rupture de lien. Qu'est-ce qui se passe avec nos autres enfants? Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange pour ceux qui ont la chance d'avoir des autres enfants. Parce que quand j'aborde ça, je pense toujours à tous ceux qui perdent leur enfant unique et pour qui la vie et l'altérité hein, s'arrêtent là du côté des enfants, peut-être momentanément, mais quelquefois pour toujours. Mais quand on a la chance d'avoir d'autres enfants, tout d'un coup va naître une grande culpabilité parce qu'on va se heurter à une incapacité de s'en occuper. Pour certains parents disent ça. Bien sûr, ils sont là, c'est formidable, mais moi, je pense qu'à l'autre, qu'à celui qui est plus là. Et j'arrive plus à me donner à leurs préoccupations, etc. Je n'arrive plus. Ou bien alors, je ne supporte plus parce que ils continuent à vivre. Et ils sortent, ils voient des copains, ils font de la musique très fort, etc. Et ça, c'est très difficile. En fait, nos relations, le lien que nous avons avec nos autres enfants, il a un double écran, si vous voulez, qui est d'une part l'enfant mort et d'autre part la souffrance de l'absence de cet enfant mort. Et ça ne va pas nous aider à aller rejoindre nos autres enfants. Par ailleurs, moi j'ai toujours entendu dans les groupes la tendance à minimiser la souffrance des autres enfants de la part des parents, ou en tout cas à ne pas en être conscient pleinement. Hein. Et j'ai entendu, ce qui m'a permis de réaliser ça, c'est un jour à Bruxelles, dans une association qui s'appelle Parents Désenfantés, ils avaient à l'époque, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, ils sont en avance sur nous, ils avaient des journées parents-enfants, parents endeuillés et fratrie endeuillée. Le matin, les parents et les fratries travaillaient chacun de leur côté, et l'après-midi, on échangeait ensemble sur ce qu'on avait découvert. Et j'ai entendu cette adolescente de 15-16 ans dire à sa mère: j'ai honte d'être vivante. Chaque fois que je me plains, tu me dis que j'ai pas le droit de me plaindre et que j'ai bien plus de chance que ma sœur qui est morte. J'en ai marre de cette chance. J'en peux plus d'être en vie. Voilà l'extrémité à laquelle nous pouvons conduire nos enfants sans l'imaginer. Hein. Ça les inquiète, ils sont très inquiets nos enfants, parce que dans le fond, le raisonnement que tient l'enfant, c'est: moi je suis là et papa et maman sont tristes. Et ma présence ne change rien à leur tristesse. Je ne les aide pas à vivre, donc je ne suis pas important pour eux. Tant d'enfants m'ont dit ça. Quand j'accompagnais leur frère ou leur sœur à l'hôpital et que du coup j'étais amenée, je me rappelle de cette petite fille me disant: « Moi, maman, elle s'en fout de moi. » Ben non, elle s'en fout pas de toi, maman. Tu sais, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses en ce moment. Elle a l'hôpital où elle doit venir tous les jours. Du coup, tu la vois moins. Du coup, tu as l'impression qu'elle ne s'occupe plus que de ton frère ou de ta sœur malade. Mais elle s'en fout pas de toi. Mais l'enfant, lui, il se dit ça. Ils peuvent même aller jusqu'à croire qu'il faut être gravement malade ou mort pour être aimé par ses parents. Les frères et sœurs nous l'ont dit. Donc soyons attentifs à ça. Là aussi, le lien, il est abîmé. Il va falloir qu'on le recrée, le lien. On a quelquefois du mal à comprendre la souffrance de nos enfants, à moins qu'on ait été endeuillés nous-mêmes comme fratrie, qu'on ait perdu un frère ou une sœur, et qu'à ce moment-là, on est introduit déjà à ça. Je pense que si la souffrance est très différente, la souffrance des enfants, elle fonde leur vie future. Je peux vous le dire parce que j'ai animé longtemps des groupes d'adolescents et de jeunes adultes en deuil, et qu'ils disaient tous qu'ils n'auraient jamais fait les choix amoureux, par exemple, qu'ils faisaient, c'est les mêmes choix, s'ils n'avaient pas perdu leur frère ou leur sœur. Et on va retrouver, et nous je vois dans la famille, nos enfants, comme par hasard vont choisir des personnes malades, ou bien vont choisir des personnes à sauver, ou bien parce qu'ils ont eu, dans leur enfance, la petite enfance, parce que notre fille avait 8 ans et notre fils 10 ans quand leur sœur est morte, eh bien ils ont eu le cancer à la maison, à domicile, donc voilà, maintenant ça rejaillit dans leur vie. Je crois que c'est important qu'on en soit conscient. Moi, je ne l'étais pas du tout, il y a 28 ans, c'est clair. Et cette non-prise en compte peut engendrer vraiment un désir de mourir chez certains de nos enfants, pour devenir aussi important que le frère ou la sœur morte. Et puis, on peut aussi avoir du mal, autant de mal à supporter leur dépression, quand ils dépriment, que leur trop-plein de vie. Donc c'est compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes, parce que ça nous ennuie les parents quand ils sont tristes, et ils n'ont pas le droit non plus de faire trop de bruit et de vie, parce que ça quand même, il a perdu son frère ou sa sœur. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à se situer. À nous de devenir conscients de tout ça. Ça c'est pour nos enfants. Comment nos liens souffrent avec notre entourage, avec notre famille, je veux dire d'abord. Eh bien la mort d'un enfant, ça engendre de nombreuses difficultés relationnelles au sein d'une famille, où ça cristallise des difficultés antérieures, parce qu'elles étaient quelquefois déjà là, mais voilà, elles n'avaient pas eu c'était pas encore exprimé, si vous voulez. Combien de mamans j'ai entendu dire « je n'ai aucun soutien de ma mère, c'est moi qui dois la soutenir dans son chagrin d'avoir perdu un petit enfant ». Ou bien « mon beau-frère n'a pas jugé utile de venir à l'enterrement de notre fils ». Ou bien « ma sœur va marier sa fille le jour anniversaire de la mort de mon enfant. Je n'irai pas au mariage. Elle aurait pu choisir un autre jour. Je lui ai dit tous les jours sauf celui-là. Elle choisit celui-là. Oui, la salle n'était pas libre les autres jours, enfin, etc. » Et qu'est-ce qu'on a travaillé ça dans les groupes d'entraide ? « Je ne supporte plus les réunions de famille », dit une autre personne. « Personne ne prononce plus jamais le prénom, le nom de mon enfant. C'est comme si rien ne s'était passé. » Oui, la famille, c'est pas si simple de s'aider avec la famille au sens large. Et j'ai envie de dire, c'est normal, parce que la famille, elle est embarquée aussi dans la spirale de la souffrance. Pas la même, bien sûr, que les parents, mais ils souffrent aussi, les membres de notre famille. Ils ont perdu un neveu, une nièce. Ils ont perdu, ça leur renvoie aussi, je pense, une inquiétude. Tout d'un coup, en pleine figure, ils prennent le fait qu'eux aussi peuvent peut-être perdre leur enfant, que ça peut aussi leur arriver. Et du coup, on leur fait peur, si vous voulez. Et la peur se distille, là, au sein de la famille, comme un poison, et on a du mal à communiquer ensemble. Elle est renvoyée, la famille, à ses peurs, à ses angoisses, par notre simple présence. Alors, comme certaines attentes sont déçues, au fur et à mesure, ça va un peu s'envenimer, et c'est tout le fonctionnement familial qui va être déstabilisé, et qui prive les parents d'un soutien qu'ils pensaient naturel. Mais quand on réfléchit, il n'est pas si naturel que ça. C'est pas forcément auprès de sa famille qu'on peut avoir le plus de soutien. Quand on l'a, tant mieux, c'est magnifique. Mais quand on ne l'a pas, on peut se dire, eh bien c'est normal, parce qu'eux aussi, ils sont dans une souffrance que moi, je n'imagine pas. Maintenant, sur le plan social, qu'est-ce qui se passe avec nos liens sur le plan de notre entourage, nos relations avec l'entourage ? Eh bien, les parents, ils se sentent très en marge, très seuls, très isolés. Et ils se sentent très différents. Et ils sentent autour d'eux beaucoup d'incompréhension. Et ils disent beaucoup, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas passés par là. Seuls ceux qui ont vécu la même chose peuvent me comprendre. Mais quand on dit une phrase comme ça, on n'imagine pas à quel point on s'isole aussi. Parce que si on ne peut être en lien qu'avec des parents qui ont perdu un enfant, Il y en a, Deo Gracias, là, vous êtes ici ce soir et ça se voit, il y en a. Mais quand même, c'est pas la majorité des gens, heureusement aussi. Donc comment va se passer notre vie si on ne peut, voilà, si on s'enferme dans ces relations qui sont nécessaires, qui nourrissent les débuts d'un deuil, qui nous aident à avancer, etc. Mais qu'il faut aussi qu'on puisse ouvrir. Moi, je disais toujours aux gens que j'avais dans les groupes, le groupe, c'est un sas. Un sas entre la vie d'avant et la vie d'après. Un sas où on s'exerce à la relation avec les autres. Voyez, avec des gens avec lesquels on n'a pas besoin d'expliquer. Ils savent. Donc on peut s'exercer. Mais notre vie, c'est de sortir de ça pour aller retrouver les autres après. Hein, ça, c'est important. Alors, il y a une grande solitude chez les parents endeuillés. Et cette solitude, qui engendre bien sûr de la souffrance, va quelquefois conduire à une mise à distance des autres, à une agressivité. Nous pouvons être agressifs, nous savons être agressifs et décourager les bonnes volontés autour de nous. Hein. Et je crois qu'il faut savoir le dire aussi, parce que l'entourage est quelquefois découragé, il ne sait plus comment faire. Il dit « c'est pas bien », il ne dit pas « c'est pas bien non plus ». Enfin, on est compliqué, hein, quelquefois. Donc voilà. Et si on ajoute à ça le peu de patience qu'il y a aujourd'hui à l'égard du deuil, il faut que ça aille vite, hein. Oh là là, il faut en 3 mois, il faut à peu près. D'ailleurs, vous irez sur le site de l'URCAM, l'assurance maladie, et vous verrez à deuil combien de temps ils vous donnent pour faire le deuil. Très peu de temps, très très peu de temps, quelques mois. Hein. Et ils expliquent que si au bout de quelques mois ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai plus la citation. Quelquefois je la donne, mais c'est absolument sidérant. Aujourd'hui, on est pressé, il faut que tout le monde aille bien, et bien vite. Donc, c'est long un deuil d'enfant. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend des années et des années. Et moi, je dis toujours, sans décourager personne, ça prend une vie. Ça prend une vie. Puisque je mourrai avec ce manque-là dans ma chair, dans ma vie, mais... Voilà, ça ne m'aura plus empêché de vivre. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve après. Hein. Donc ça prend du temps, et le temps aujourd'hui, il est refusé aux personnes en deuil. La société n'a pas le temps pour ce genre de choses. La personne qui dit le mieux ça, pour moi, c'est Geneviève Jurgensen, qui est la fondatrice de la Ligue contre la violence routière, qui a perdu 2 petites filles dans un accident de voiture, ses 2 seuls enfants qu'elle avait à ce moment-là. Elle est chroniqueuse à la Croix, Geneviève. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà ce qu'elle écrit dans une chronique, ce qu'elle écrivait dans une chronique il y a quelques années, que je relis souvent parce que je trouve que c'est formidable. Les gens ne sont pas plutôt morts. Les décombres ou les canons de fusil fument encore. Les victimes ne sont pas encore dénombrées. L'épouvante commence seulement à s'épandre, et déjà, hardi donc, il faut faire son deuil, entre guillemets. On n'a pas compris ni de qui ni de quoi, mais roulez bolide, faites votre deuil. L'obligation du deuil instantané passe tel un rouleau compresseur pour aplatir tout ce qui bouge encore. Or, certains événements, dit-elle, totalement imprévisibles par leur nature ou leur dimension, auxquels nous ne pouvons pas nous préparer, surgissent dans nos vies, et elle sait de quoi elle parle, et déborde toutes nos capacités d'absorption. Faire son deuil, c'est consentir à devenir quelqu'un d'autre. Le contraire de l'évacuation, l'intégration. Avec votre permission, ce sera long, dit-elle. Voilà, moi j'aime bien lire des chroniques comme ça, je trouve ça assez tonique. Et ça dit bien ce que nous disons quand des journalistes qui ont vécu ça peuvent le dire à notre place, c'est superbe. Simplement, je voudrais reconnaître, avec vous peut-être, si vous êtes d'accord, à la décharge de notre entourage, que nous sommes devenus des gens un peu compliqués. Puisque vous savez que ce qui marque le deuil, c'est l'ambivalence. On veut quelque chose, mais on ne veut pas. C'est ça l'ambivalence. Eh bien, nous sommes des gens ambivalents pendant le deuil. Nous voulons à la fois être reconnus comme des gens à part, des êtres à part, puisqu'on a vécu ça et que tout le monde ne l'a pas vécu, mais en même temps, on voudrait qu'on mène une vie normale et qu'on arrête de nous mettre sur un piédestal ou bien à l'écart, etc. On oscille en permanence entre des moments où on a vraiment envie de parler de cet enfant, puis des moments où on a envie de se changer les idées, de se distraire, de faire autre chose. Et malheur à la personne qui se trompe de moment quand elle nous aborde. Mais elle ne peut pas savoir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est nous, on est devenus comme ça aussi. On attend de l'entourage qui comprenne nos besoins sans que nous le guidions. Mais si nous sommes honnêtes, est-ce que nous comprenions les besoins de ceux qui avaient perdu des enfants avant que nous sachions ce que c'était ? Nous voulons aller mieux, mais nous sommes paralysés par la peur d'oublier. Donc si je vais mieux, ça va s'éloigner, et du coup, souffrir peut apparaître à certains moments comme une façon d'être lié à son enfant. Et pour moi, vraiment, d'ailleurs dans ces moments-là, on ne supporte pas que les gens nous disent « Oh, tu as l'air mieux là !» Ouh là là, que ça ne nous va pas du tout ça, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est complètement dévasté, et on aimerait bien qu'ils le voient. Il me semble qu'un grand pas est franchi dans le deuil, le jour où nous comprenons que faire son deuil, ça n'est pas oublié, jamais. Et que nous pouvons aller mieux, revivre quelquefois, au lieu de survivre, parce que c'est quand même ça, le début d'un deuil, c'est un état de survie. On peut revivre sans oublier notre enfant, sans enterrer nos souvenirs et nos liens d'amour. Le jour où on a compris ça, on a fait un grand pas dans le deuil et on commence à avancer. Une maman que je connais bien, parce que c'est ma belle-sœur, me disait un jour, pour les autres, la mort de mon fils, c'est une péripétie. Pour moi, c'est toute ma vie qui est à rebâtir. Eh ben oui. Et les autres avaient plus l'air de comprendre trop que c'était ça. Donc on voit bien que tous nos liens sont mis à mal dans le deuil. Nos liens en couple, nos liens avec nos autres enfants, nos liens en famille, nos liens avec l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme aide dans ce travail de réajustement, de reconstruction ? Parce que c'est vraiment un travail de reconstruction auquel nous sommes conviés. Quels atouts on peut se donner pour pouvoir avancer ? Il y a trois préambules, avant de rentrer dans des choses très concrètes, trois préambules que je veux vraiment creuser avec vous. Je voudrais insister sur le fait que la réparation des liens abîmés, qu'on vient de nommer en couple, avec nos autres enfants, en famille, avec l'entourage, cette réparation, elle dépend complètement de deux autres types de liens. Le lien que nous avons avec notre enfant mort, qui est un lien qui nous est refusé, dénié par l'entourage. Mais celui-là, il faut absolument qu'on le travaille et qu'on le fasse vivre, parce que c'est de ça que va dépendre la reconstruction, vous voyez, avec les autres. Donc le lien que nous avons avec notre enfant mort, on va creuser un peu celui-là. C'est capital de le garder. Et quand je dis ça, vous savez, aujourd'hui, vous êtes assis, vous écoutez, vous dites oui. Quand vous disiez ça il y a 20 ans, c'était révolutionnaire. Tous les psys disaient le contraire. Et il disait, il faut surtout pas reparler, aller au cimetière, être pleuré tout le temps, etc. C'est pathologique. Au bout d'un an, c'était pathologique. On avait un an. Donc au bout d'un an, c'était terminé. Il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était grave. Il a fallu attendre 1999, à peu près, je crois, ou 2000, je ne sais plus, pour qu'une première étude, faite aux États-Unis, bien sûr, jamais en France, montre que, par exemple, pour la mort d'un enfant, eh bien, il fallait de nombreuses années, 5 ans par exemple, pour que, vous savez, la boule dans la gorge, le nœud ici, commence à s'en aller, les maux de dos qui ne partent plus, 5 ans. 10 ans pour qu'un déclic, quelque chose se passe vraiment où là, voilà, le parent commençait à avancer. Et puis on continuait dans les années comme ça. Ça n'avait plus rien à voir avec les 1 an de nos psys, vous voyez. Donc voilà, garder le lien avec son enfant, alors qu'on nous a, aujourd'hui on dit... Le deuil ne peut se faire que en s'appuyant sur ce lien-là. Donc, faut le garder, il faut le travailler. Bien sûr, il faut tout le transformer. Parce que le lien que nous avons avec notre enfant, c'était un lien avec nos 5 sens. Hein? Et aujourd'hui, nos 5 sens, ils fonctionnent plus de la même façon. Quoique, ils vont quelquefois, une odeur va nous ramener en arrière, un air de musique va nous ramener aussi le souvenir, un paysage, un bruit de vague. Voilà, on fonctionne encore avec ces 5 sens dans le deuil, mais ces 5 sens blessés, si vous voulez. Hein. Et il faut qu'on retravaille, qu'on transforme, qu'on transforme vraiment ce lien pour qu'il soit adapté à ce monologue dans lequel on est maintenant. Vous allez voir après comment on peut aussi sortir de ce monologue. Donc ça, soyez bien convaincus. Ne vous laissez pas culpabiliser par l'entourage, parce que vous pensez toujours à votre enfant. Hein. Faire son deuil, ça n'est pas oublié. Ça n'est pas oublié, ça, c'est pas possible. Alors, le deuil est impossible, donc c'est pas la peine de commencer. Hein. Quel parent oubliera son enfant ? Aucun, ça n'existe pas. Faire son deuil, ce n'est pas oublié, même si parfois notre entourage serait bien soulagé, qu'on ait l'air d'oublier un peu, hein, et qu'on ait l'air d'aller mieux, si vous voulez. Et même si aussi, avec le temps, il y aura des moments où nous nous serons dit, j'y ai pas pensé là ce matin. J'y ai pas pensé une heure d'abord, j'y ai pas pensé cinq minutes, et puis ce matin, et puis hier, j'y ai pas pensé. Et puis nous, on a fêté cette semaine les 35 ans de notre fille, et ben on y a pensé le matin, et puis après on n'y a plus pensé pendant la journée, alors qu'il y a, il y a 28 ans, ça aurait été très dramatique. Donc voilà, il faut vraiment s'appuyer sur ce lien. Et je crois que, parce que ce lien, c'est le lien du cœur dont je parle. C'est pas le lien physique, celui-là malheureusement il est plus là, mais le lien du cœur, lui, il meurt pas. Je pense que le temps n'a pas d'impact sur ce lien, sur nos liens de cœur. Il n'y a aucun risque, en tout cas, qu'il ait de l'impact. Mon enfant restera toujours mon enfant, et l'amour que j'ai pour lui ne finit pas avec sa mort, dit un parent. Vous savez bien, vous pouvez dire ça à ceux qui sont ici. Et il y a un papa l'autre jour qui, en parlant à son enfant, disait « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Et voilà, c'est un peu ça, la permanence de ce lien sur lequel on peut s'appuyer. Je me rappelle très, pour évoquer un souvenir personnel, quand on est revenu de l'hôpital où on nous avait annoncé que malheureusement c'était terminé et que le traitement ne marchait pas et que notre fille allait s'en aller, il ne savait pas dire combien de temps, elle est morte 4 mois après, mais on ne savait pas très bien combien de temps ça serait. Et j'ai dit à mon mari, et ça m'a toujours frappée, il y a une chose que je sais, c'est que rien ni personne ne pourra m'enlever l'amour que j'ai pour cet enfant. Voilà, et c'est resté ça. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut m'enlever l'amour que j'ai pour cet enfant. Et pourtant, ça remonte à très longtemps. Et ça, au contraire de m'empêcher de vivre, ça me donne de l'énergie, de la force pour faire des choses. Elle m'a fait faire des tonnes de choses que je n'aurais jamais fait, en fait, si elle n'était pas partie. Voilà, donc vous appuyez sur votre enfant, le lien avec votre enfant, qui doit changer. Évoluer, se transformer. Hein. Et quelquefois, je me dis, dans le fond, on expérimente cette évolution du lien avec nos enfants qui sont loin. Nous avons des enfants expatriés qui sont dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'ils sont loin que nous ne les aimons plus. C'est pas parce qu'ils sont loin que nous ne pensons plus à eux. Et en même temps, nous ne pensons pas à eux toute la journée. Et c'est à ce type de lien qu'il faut qu'on arrive à arriver avec nos enfants morts aussi. Voilà, je pense que ce type de lien, il est de l'ordre de ce que j'appelle moi le spirituel au sens large, qui n'a rien à voir avec le religieux. Le spirituel, c'est tout ce qui tourne autour du sens dans nos vies, tout ce qui donne sens, qui insuffle du sens, voilà. Et ce lien avec notre enfant mort, il est de cet ordre-là. Quelques parents m'ont dit, moi, pour construire ce lien, pour garder ce lien, j'ai besoin de parler à mon enfant. Moi, j'ai appelé ça, du coup, la parole intérieure. Parce que c'est vrai que c'est un monologue. On n'a pas de réponse. Et parler à son enfant, de l'extérieur, ça peut paraître un peu curieux, surtout des années après. Mais je me dis, dans le fond, pour les femmes qui ont eu des enfants dans cette assemblée, vous avez certainement fait l'expérience de parler à votre bébé avant qu'il soit né. Et personne ne vous prenait pour une folle. Les papas qui aujourd'hui sont tellement associés à la grossesse, ils font l'expérience de parler au bébé à travers le ventre de leur femme. Et personne ne les prend pour des fous. Eh bien, c'est quelque chose de cet ordre-là, la parole intérieure aussi. Et moi, j'avoue qu'il m'arrive très souvent encore, des années et des années après, de parler à Géraldine, de lui confier. Des choses que je sais difficiles. Et cette parole intérieure, ça, c'est aussi ça qui tricote le lien. Mais on n'est pas obligé de le faire toute la journée. Hein. C'est des choses qui viennent comme ça une fois de temps en temps. Par exemple, avant de vous parler, toujours j'ai une petite pensée en disant « Dis donc, voilà, hein, tu te rends compte ?» Oser s'adresser à des parents qui vivent cette souffrance, bon, il faut de l'aide. Alors voilà, je te la demande, cette aide. Ça, c'est le premier lien, le lien qu'on a avec notre enfant mort. Pour retisser des liens, il faut qu'on ait un lien avec notre enfant mort. Le deuxième lien qu'il faut que nous ayons, c'est le lien avec nous-mêmes. Et celui-là, il est sacrément mis à mal par la mort de notre enfant. Si nous nous sentons coupés de nous-mêmes, si nous nous sentons dépossédés de notre vie, si nous nous regardons vivre en automate, ce qui est bien le lot des parents au début, hein, être une espèce d'automate qui font les choses... parce que on navigue sur l'air du bateau. Eh bien, nous ne pouvons pas être en lien avec les autres. On ne peut être en lien qui n'a pas de lien avec lui-même ne peut être en lien avec les autres. Ça, c'est clair. Donc, il faut que nous travaillions à reconstruire ce lien avec nous-mêmes. Et quelquefois aussi, alors c'est en prenant soin de soi qu'on reconstruit ce lien avec nous-mêmes, vraiment, en nous mettant au centre, ce qui n'est pas toujours l'éducation que nous avons reçue. En tout cas, moi, c'est le contraire de celle que j'ai reçue, parce que j'ai entendu toute mon enfance, pense aux autres, regarde autour de toi, aie des intentions pour les gens, etc. Et puis quand je me suis retrouvée à me dire, Annick, qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que tu as besoin d'un massage? Est-ce que, de quoi tu aurais besoin? J'entendais maman, pense aux autres. Mais non, non maman, désolée, mais je ne peux plus penser aux autres. Là, il faut que je pense d'abord à moi en priorité, parce que sinon je ne pourrais plus jamais penser aux autres. Hein. Alors prenez soin de vous. Et dans les groupes, il y a une soirée qui a pour thème prendre soin de soi. Et on cherche. Et les gens repartent toujours avec soit une inscription en Thalasso, soit une inscription à une randonnée, soit un rendez-vous de massage. Enfin, vous voyez, voilà, prendre soin de soi au quotidien. C'est ça qui va nous aider à être en nouveau en lien avec les autres après. Et puis, la deuxième façon de prendre soin de soi, c'est d'accepter de se faire aider. Alors, dans nos pays, en particulier dans le nôtre, là, ici, eh bien, il y a quelque chose autour de ça qui est très curieux. Se faire aider, ça engendre une espèce de honte. Ça veut dire que je ne sais pas faire tout seul, que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. C'est presque de l'ordre de l'assistant social. Vous voyez, il va y avoir un assistant de deuil. Je ne peux pas y arriver tout seul. Et j'ai honte quelque part. Je me sens coupable de quelque chose. Alors moi, j'ai envie d'habiter les pays anglo-saxons quand c'est comme ça, parce que je trouve qu'ils sont formidables. Ils se posent pas toutes ces questions. Ils sont très réalistes et ils se disent « Je traverse une période difficile, je prends l'aide appropriée qui m'est offerte pour cette période. » Et ils ont, vous savez, ils ont mis en route les alcooliques anonymes que tout le monde connaît, AIDS pour le sida. Ils ont ce qu'on appelle les « self-help groups ». C'est des groupes d'aide qu'on s'apporte à soi-même. Et nous, on a baptisé ça « groupe d'entraide ». Mais c'est les groupes, vraiment, c'est de l'aide qu'on se donne et que les autres nous donnent au sein du groupe. Ben voilà, devenez un petit peu anglo-saxon, si vous voulez. N'ayez pas honte de chercher de l'aide, on a besoin d'aide. Nous venons de retraverser des années après une période très difficile avec une maladie psychiatrique d'un enfant, et la première chose que nous avons fait, c'est s'inscrire dans un groupe de parents. Allez chercher de l'aide. Et pourtant, moi, j'anime des groupes de parents. Oui, mais quand c'est vous qui êtes dans la muise, vous avez aussi besoin d'aide. Et reconnaître humblement que j'ai besoin d'aide, que quelqu'un peut me tendre la main. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'important, je crois. Ça c'était le premier préambule. Le lien avec notre enfant mort, le lien avec nous-mêmes. Deuxième préambule, nous ne pourrons entrer dans le processus de deuil. Et je dis bien entrer, parce que moi j'ai accueilli des parents des années après la mort de leur enfant dont le processus de deuil n'était même pas commencé. Hein? Donc nous ne pourrons entrer dans le processus de deuil que en rassemblant, identifiant, classant, etc., les souvenirs que nous avons de notre enfant. Et tout à l'heure, en feuilletant l'album que vous m'avez permis de feuilleter avec vous, Marie-Françoise, je me disais, ben voilà, ça, c'est une entrée dans le processus de deuil. Rassembler. Quelquefois, on dit, on ne peut bien perdre que ce que l'on a bien eu. On ne peut perdre que ce qu'on a eu. Si on n'a pas eu quelque chose, on perd pas. Alors, si on ne cherche pas, qu'est-ce qu'on a eu avec cet enfant ? Qu'est-ce qui m'a apporté cet enfant ? Qu'est-ce que je garde de lui, etc. ? Qu'est-ce qui me fait souffrir ? Qu'est-ce qui me manque ? Mais quel héritage aussi ? Chacun de nos enfants nous apporte un héritage, entre guillemets. C'est pas l'héritage seulement parent-enfant, c'est aussi l'héritage enfant-parent. Hein ? Donc je cherche ça. Tout ça, j'identifie, je mets ça au jour, et ça va me permettre d'avancer, de rentrer dans mon processus de deuil. Je vais pouvoir perdre quelque chose parce que je sais ce que j'ai eu, si vous voulez. Ça se fait pas en un jour, tout ça. Il faut du temps. Et troisième et dernier préambule, avant de rentrer dans les aides concrètes, ça c'est quelque chose que j'ai... je viens d'y penser, presque dans le train, juste avant le train, et je me suis dit, ne rien attendre des autres. Ça m'apparaît clair aujourd'hui, 28 ans après, ne rien attendre des autres. Pourquoi ? Parce que si j'attends qu'ils me comprennent, qu'ils comprennent ce que je vis, qu'ils devinent mes besoins, qu'ils anticipent l'aide dont j'ai besoin ou que je désire tant, eh bien je suis dans une attente totalement irréaliste. Si je n'attends rien, chaque petit geste sera une bonne surprise. Chaque proposition, ça sera une occasion de s'émerveiller, voyez, et je ne serai pas déçue. fait. Et ça me permettra de ne pas nourrir de ressentiments, de colère, en particulier, par exemple, je pense à la famille. Hein. Eh bien, si je ne perds pas d'énergie, moi qui en ai si peu au moment du deuil, à dépenser de l'énergie en étant en colère contre quelqu'un qui n'a pas fait ce que j'attendais, ça va aller beaucoup mieux. Donc, n'attendons rien des autres. Et vraiment, c'est un sentiment auquel j'arrive parce que je... Très honnêtement, je me remets en cause aussi dans mon inadéquation à aider nos amis qui ont perdu des enfants avant que ça nous arrive. Et le jour de l'enterrement de Géraldine, la première chose que j'ai faite, c'est demander pardon à un ménage ami qui était là, qui avait perdu une petite fille 7 ans avant. Et je lui ai dit pardon d'avoir été si inadéquat. Pardon, je ne savais pas. Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit, mais Annick, maintenant tu sais. Et ça va nous rapprocher. Voyez, et je pense que vraiment, il faut qu'on reconnaisse, nous aussi, que tant qu'on ne sait pas ce que représente tout ça, c'est difficile d'aider. Et alors, on va voir après comment on peut concrètement sortir de ça. À quelles aides concrètes, alors, on peut recourir dans la mise en route de ce processus de reliance avec les autres? Au lieu de parole, d'abord, où vous pouvez parler de la souffrance librement. C'est pour ça que cette conférence, c'est un peu une conférence de début. Quelquefois, je fais des conférences sur le temps et je m'excuse auprès des gens qui viennent de perdre leur enfant en disant « ce que je vais dire maintenant, je peux le dire parce qu'il y a très longtemps que j'ai perdu mon enfant. J'aurais pas pu le dire au début. » Mais là, ce soir, j'ai envie de vous dire, si vous êtes au début, s'il y a des gens qui sont au début, alors vraiment, c'est pour vous. C'est tout de suite qu'il faut qu'on rentre là-dedans avec la conscience. Je dis pas qu'on va réussir, mais le désir de ça, la conscience de ça, ça va nous aider, ça va nous porter. Donc, avoir des lieux de parole où on peut parler librement, sans honte, sans crainte d'être jugé, hein, librement. Et ces lieux de parole, ils sont de trois types. Hein. Il y en a des lieux naturels, des bons amis, des proches qui savent écouter. On en a ça, des collègues de travail avec qui on peut aller déjeuner une fois de temps en temps et qui sont à l'écoute, ça existe. Donc ça peut être ça. Quand c'est pas ça, alors les lieux associatifs prennent le relais, momentanément, ou pour un temps plus long, comme celui qui vous invite ce soir. Et puis, il y a aussi les lieux professionnels. Et je crois qu'il ne faut pas craindre d'y avoir recours, vraiment. Surtout si la mort de notre enfant a réactivé des souffrances anciennes. Je pense à une maman dans un groupe qui, au bout de quelques séances de groupe, me disait... En fait, la mort de ma fille réactive mon divorce, la souffrance de mon divorce. Je n'ai jamais travaillé mon divorce et maintenant je vais être obligée. Donc je vais aller voir une psy pour travailler mon divorce et je viens au groupe d'entraide pour réfléchir et travailler à la mort de ma fille. Vous voyez, ça peut réactiver des souffrances anciennes qui n'ont pas été travaillées, la mort de nos enfants. Donc voilà, prenons les moyens d'aller voir un professionnel quand ça paraît nécessaire. Parce que tous ces lieux sont complémentaires, pas rivaux. Complémentaires. Et qu'on a des besoins différents aussi dans les moments différents de notre deuil. Donc il faut qu'on puisse avoir un éventail à notre disposition. Être en deuil demande une grande humilité et la force de reconnaître que nous avons momentanément besoin d'aide. Voilà, c'est pas facile. Alors à vous de choisir entre les différentes formes de soutien que vont proposer les lieux associatifs et les lieux professionnels, parce que ils sont dans ces deux lieux. Les entretiens individuels, si vous préférez ne pas être avec d'autres, où on va aller parler de son enfant et de la souffrance engendrée au quotidien, de l'incompréhension des gens qui nous entourent, de la culpabilité éprouvée. Et je pense que professionnel ou bénévole, l'écoutant est un témoin privilégié. Me revient une lettre écrite par une maman après un accompagnement d'une année, à peu près en entretien individuel. Et elle nous remerciait, avec la personne que vous connaissez, nous l'avions reçue, elle nous remerciait en nous disant « Merci d'avoir été poubelle, miroir et tamis. » Alors je me disais, mon Dieu, je ne savais pas que j'étais tout ça, moi. Et alors, poubelle, parce que j'ai pu faire le tri avec vous, des choses à jeter et des choses à garder, et que dans ce que je m'étais à jeter, vous saviez encore faire un deuxième tri avec ce qui était quand même à conserver, ou ce qui pouvait être intéressant. Poubelle. Miroir, parce que vous m'avez toujours permis de voir ce qui se passait en moi, mais que je ne voyais plus. Et c'est vrai que c'est ça que fait l'écoutant. Hein. C'est pas dire aux gens, c'est ça que tu dois faire, voilà le chemin, vas-y, marche. Non, non, non. C'est renvoyer ce qui est à l'intérieur de la personne et qu'elle ne voit plus parce que c'est obscurci pour le moment. Poubelle, miroir, tamis. Tamis parce qu'après chaque entretien, vous aviez enlevé tout le sable et la poussière et il restait quelques pépites avec lesquelles je repartais pour les 15 jours à venir. Donc voilà pour moi une belle définition de l'entretien individuel. Poubelle, miroir, tamis. Hein. Ça peut vous donner des idées pour vos entretiens. Et vraiment être témoin, moi c'est quelque chose que je trouve très beau, d'être, même si c'est émouvant, mais d'être témoin du chemin voilà, que peut faire quelqu'un. Et ce témoin, il n'est pas détruit par la parole de l'autre. Ce qui est important, parce que vous voyez, quand je vous disais que nos familles souffrent, elles peuvent être détruites par ce que nous leur disons. Quand un de nos enfants aussi nous dit « Maman, j'ai envie de mourir », par exemple, ça nous détruit. Mais si cet enfant, ce même enfant, le dit « J'ai envie de mourir » dans un groupe d'entraide d'adolescents en deuil, là, les animateurs ne sont pas détruits, il peut le dire. C'est très important de trouver des gens qui ne sont pas détruits par ce qu'on leur raconte. Hein. Et puis des gens qui sont crédibles aussi parce qu'ils ne sont liés par aucun enjeu affectif ou familial. Vous voyez, ils sont totalement à l'extérieur. Ils n'ont pas d'enjeu dans votre vie à vous. Donc voilà, ils sont crédibles. Je crois qu'au fil des rendez-vous, quand ils s'agencent comme ça, quand ils sont menés comme cela, eh bien, se reconstruit doucement la trace laissée par l'enfant. Elle se reconstitue. Et ça redessine le contour des souvenirs, en fait. Hein. Alors ça, c'est l'entretien. Et puis, vous avez aussi les groupes d'entraide. Alors, j'en ai pas parlé avec vous pendant le repas, on aurait dû, parce que je ne sais pas ce que vous faites comme groupe. Si on en fait. Vous avez des journées ?
Non, tous les premiers mardis de chaque mois, en fait, c'est des groupes d'entraide.
D'accord. Donc, il y a des groupes d'entraide. Alors, il y a des groupes ouverts. Ça, c'est le groupe ouvert. C'est-à-dire, c'est tous les premiers mardis de chaque mois, vous savez que vous pouvez aller à Jonathan et qu'il y aura quelqu'un que vous êtes attendu. Et qu'il y aura d'autres parents qui viendront. Et moi, j'ai animé des groupes fermés, c'est-à-dire 12 séances. Ça nous mène sur une année, les 4 saisons, les anniversaires de décès et de naissance, vous voyez, de l'enfant. Donc, c'est une autre façon de faire, mais que moi, j'aime particulièrement. Le groupe d'entraide, c'est comme je disais tout à l'heure, là, ce sas où on va s'exercer à la relation, avec des mêmes. Hein. Tout à l'heure, je parlais de l'altérité. Ben là, on a des mêmes. Ils sont pareils, des pairs, P-A-I-R-S, si vous voulez, pour affronter la relation avec ceux qui n'ont pas perdu d'enfant. Et c'est aussi un endroit où on va prendre des idées, parce que les difficultés auxquelles je suis confrontée, la maman d'à côté, le papa d'en face, aussi, il est confronté à ces difficultés. Et voilà comment il fait, lui, avec ça. Il a mis en place telle chose. C'est une bonne idée, je n'avais pas pensé. Vous voyez, c'est ça, le groupe d'entraide, c'est pouvoir se donner des idées chacun sur des façons de faire sans se les imposer bien sûr hein, parce qu'il y a jamais chacun est unique et on peut pas il y a pas une règle ça serait trop facile il y aurait un patron comme en couture on mettrait le patron on couperait autour et hop le deuil roule mais non c'est pas comme ça ça serait bien mais c'est pas comme ça donc voilà et oui c'est ça et c'est le groupe d'entraide c'est un endroit où on va reconnaître cette nouvelle identité dans laquelle on est rentré parent endeuillé. On ne savait pas ce que c'était. Et bien ça, quand on rentre dans un groupe, on reconnaît ça. Hein. Et les seuls conseils, entre guillemets, acceptables, qui peuvent être reçus par une personne en deuil, elles viennent de pairs. Encore que, quand ces pairs disent « c'est comme ça qu'il faut faire », ce n'est pas acceptable non plus. Hein. Mais ça va mieux quand c'est quelqu'un qui a perdu un enfant qui me dit « tu sais, moi, c'est ça qui m'aide ». Bon, ben écoute, alors je vais regarder ça de plus près. À quoi ça sert tous ces lieux de parole ? Dont on a besoin quand même pour, dans le deuil. Ça va mettre à jour toutes les facettes de la souffrance. Vous savez, on voit, c'est comme toujours, nous, on a le projecteur sur une face. Et puis derrière, notre souffrance, c'est un peu comme une boule. Hein, et derrière, c'est toujours dans l'ombre. Donc, dans un groupe, on va faire tourner ça. On va voir toutes les facettes pour mieux identifier le chemin qu'on parcourt et les blocages aussi sur ce chemin. On va les voir dans un groupe. Hein, pour découvrir en couple la souffrance de l'autre. Quand on est à deux dans un groupe, je vois des gens qui ouvrent des yeux comme des billes quelquefois quand l'autre parle. « Ah bon ? Mais tu ne m'avais jamais dit ça ?»« Non, mais je ne peux pas toujours te dire. » Là, ça peut venir. Hein. Donc on va découvrir la souffrance de l'autre. Et si je découvre la souffrance de l'autre, alors je peux mieux l'accompagner, mieux l'aider. Les parents me disent toujours « Annick, les groupes, c'est bien. Mais si tu nous voyais dans la voiture, quand on rentre du groupe, alors là, tu serais contente. Hein? Parce que c'est vrai que c'est aussi ça. C'est les chemins pour y aller, les chemins pour en revenir. Et on parle de nos appréhensions sur la route d'aller et de ce qu'on a découvert sur la route de retour. Et voilà, ça alimente la relation. Et le lien se renoue un petit peu à la fois. Hein? Dans des choses là qui sont des choses denses. Mais bon, ça renoue le lien. Et puis, à quoi ça sert, ces groupes de parole aussi? Ça initie une réflexion sur la transformation de la relation. Je sais bien qu'il va falloir que je transforme la relation avec mon enfant, mais comment on fait? Ben, personne ne sait. C'est chacun qui le fait. Hein. Donc voilà, dans un groupe, je vais être portée aussi par la façon dont les autres le font. Donner une nouvelle destination à la chambre de mon enfant, dans la maison. Mettre une distance physique entre certains souvenirs. Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, hein, nous disent quelquefois certaines civilisations. Par exemple, en cas d'incinération, se séparer de l'urne, la mettre dans une concession, ne plus la garder sur la cheminée du salon ou la table de nuit dans la chambre, hein, ou dans le coffre quand on va faire le marché. J'ai eu ça aussi dans les groupes. Voilà, mettre de la distance avec le mort, hein, et rester avec les vivants, nous, pour pas se paumer non plus. S'engager dans une activité porteuse de sens, pour soi, pour les autres. Espacer graduellement les visites au cimetière si on sent que c'est des choses qui nous retirent vers le bas. Hein. Si on sent que ça fait du bien, eh ben on y va. Mais si on sent que ça nous tire vers le bas, on peut espacer sans se faire violence. Jamais de violence. C'est assez violent, la mort d'un enfant. On a eu la dose de violence, alors on va jamais se faire violence. Hein. Puis d'ailleurs, on ne fait pas tout pousser les radis en tirant sur les feuilles. Donc ce n'est pas la peine de tirer sur les feuilles. Vous avez les feuilles, mais le radis, il dépérit en terre. Donc vous laissez bien le radis mûrir, sortir, et quand il est mûr, à ce moment-là, vous pouvez tirer. Hein. Moi, je suis une jardin. Alors les images de jardin, ça me parle. Décider de consacrer des temps privilégiés en couple, à ses autres enfants, c'est des choses qu'on peut faire dans ces groupes. Répondre positivement à des propositions de sortie faites par des amis, c'est la quatrième fois qu'ils nous proposent, on pourrait peut-être dire oui ce soir. Ça fait trois fois qu'on dit non. Eh bien, ce soir, on va dire oui. Puis on va serrer les dents et essayer de vivre quand même cette sortie, ce qui n'est pas facile. Hein. Reprendre contact avec la communauté de foi à laquelle j'appartiens, si j'appartiens à une communauté de foi. M'engager dans une recherche de sens, hein, le spirituel au sens large, de sens. Et quand je dis ça, je fais toujours référence à Xavier Thévenot, qui est un théologien qui a écrit « Souffrance, bonheur, éthique ». Et dans le paragraphe « Souffrance », il dit « Il y a dans notre vie des événements dont il est inutile de chercher le sens. Ils n'en ont pas. Par contre, nous pouvons passer notre vie à leur donner du sens. » Ça, c'est une autre démarche. Hein. C'est ça, quand je parle du spirituel, pour moi, c'est ça. Alors, quelles autres aides? Eh bien, toutes les activités liées à la recherche des souvenirs, comme on a dit tout à l'heure, le classement des photos, la réalisation d'albums, la recherche des objets, de textes ayant appartenu à l'enfant, tout mettre ça en ordre, destiné ses affaires, faire l'usage qu'on va faire de ses affaires, décider des dons à des gens, voilà, des proches, des amis, ou bien au contraire pas à des proches. Il faut faire très attention aussi dans les dons. Moi, je me rappelle avoir donné les vêtements de ma fille à ma sœur, qui avait une petite fille qui avait 3 ans de moins, et ça a été une horreur tant que cette petite fille n'a pas eu 7 ans, parce que j'en pouvais plus de voir ses vêtements. Jamais il faut faire ça. Enfin, vous voyez, essayer de se dire, alors par contre, je dis ça, mais non, voilà, je tombe encore dans le normatif. Il y a des gens à qui ça va faire plaisir de voir les vêtements portés. Ben, moi, ça m'a détruit. Donc je me dis que je le sais pour moi, mais je ne le savais pas avant. Donc réfléchir, est-ce que ça va me faire plaisir si je les vois portés, ou bien est-ce que ça va me détruire en me disant, quel dommage, quelle tristesse, cette gosse qui ne peut plus les mettre. Bon, voilà. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais dans ces endroits de réflexion, de groupes d'entraide, d'entretien, etc., on réfléchit à tout ça. Et tout ça, c'est important. Et puis, dernière chose, à quoi ça sert, tous ces lieux d'écoute et de parole, c'est l'apprentissage de nouvelles aptitudes à développer dans nos relations. Oui, si nous voulons être en relation avec les autres, il va falloir qu'on développe des nouvelles aptitudes. Apprendre à dire nos besoins. Et dans les groupes, les gens me disent, la barbe. C'est nous qui souffrons, ils n'ont qu'à deviner, ils n'ont qu'à nous faire des propositions. Mais je leur dis, ben voilà, alors venez pas pleurer parce que vous les avez pas, ces propositions, et qu'ils comprennent rien. C'est à nous de dire, oui, en ce moment, j'aurais besoin qu'on en parle, ça me fait plaisir. Non, en ce moment, j'ai vraiment besoin de me changer les idées, de faire autre. Comment voulez-vous qu'ils devinent ? Ils peuvent pas deviner. Donc nous devons apprendre à dire nos besoins. Ça me ferait plaisir que tu me fasses signe quand tu fais ces promenades en forêt. Je pense que maintenant, je serais capable d'y aller. Ou bien, tu vois, ça fait des années que j'ai pas été au restaurant ou que j'ai pas nagé. J'aimerais bien. La prochaine fois que tu le fais, fais-moi signe. Dire nos besoins, ça recrée notre entourage, vous voyez, parce que tout d'un coup, lui qui savait plus quoi faire, eh ben, il sait quoi faire. On lui a donné des pistes. Hein. Si vous saviez le nombre de gens que je reçois et qui me disent, j'ai une sœur, un frère, une belle-sœur, un ami qui a perdu un enfant, je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que je dois lui ? Là, c'est son anniversaire. Est-ce que je dois faire quelque chose ? Est-ce que vous pensez que si j'appelle, ça sera bien ? Est-ce qu'il faut que j'écrive ? Les gens ne savent pas. Ils sont perdus. Voyez ? Donc, apprendre à dire nos besoins. Apprendre à parler en je, J-E. Pas en tu. Hein ? Le tu, T-U-E. Le je dit mon besoin. C'est tout. J'aimerais beaucoup, tu vois. Tu ne dis jamais rien. J'aimerais tant t'entendre parler, notre enfant. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Quand on le demande comme ça, on va peut-être réussir. Si c'est tu ne dis jamais rien, il n'y a pas moyen de parler avec toi, regarde. Tu t'en vas tout le temps, d'ailleurs, tu n'es jamais là. Voilà. Dans un couple, c'est très aidant. Mais dans une famille, c'est très aidant. Avec nos enfants, c'est très aidant. Avec nos amis, c'est très aidant. Le message je. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Vous verrez, ça donne des bons résultats. Et ça va nous apprendre aussi à écouter les douleurs des autres, même quand elles nous paraissent tellement ridicules. Ridicules. Oui, ils ont eu un accident et leur voiture est foutue, mais bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Pour eux, c'est extrêmement grave. Et si vous avez l'impression, vous donnez l'impression que c'est nul et que, vous voyez, eh ben vous allez perdre des amis. Si nous mesurons la douleur de la société, de tous les autres, à l'aune de la nôtre, il n'y en a aucune qui tient la route. Aucune ne tient la route. Donc on va être isolé tout seul. On va se retrouver tout seul, voyez. Donc ne pas mesurer toujours à l'aune de la nôtre et pouvoir dire à quelqu'un oh, « c'est dur d'avoir mal tout le temps, là, comme tu as mal, j'entends que ça te bouffe la vie. Hein. C'est difficile. » Ou bien « oui, tu te fais du souci pour cet enfant. » L'autre jour, je voyais une de mes amies dont la fille vient d'avoir un bébé. Alors je lui dis « c'est chouette. » Elle me dit « oui, mais elle est fatiguée, tu sais. Elle est tellement fatiguée. » Mon premier jet, ça a été de me dire « écoute, te plains pas, elle a eu un bébé, c'est génial. » Puis après, je me suis dit « tu es inquiète de l'avoir fatiguée. Tu trouves que tu aimerais l'aider plus ou... ?» Eh ben oui, j'ai gardé le lien avec cette amie, vous voyez. Alors que j'avais tellement envie de lui dire, écoute, moi je rêve d'avoir une fille qui attend un bébé là et ça va pas. Eh ben j'aimerais qu'elle soit fatiguée quelquefois. Eh ben non. Vous voyez, arriver à rester ouvert à la souffrance de l'autre, voilà. Ne mesurons plus tout parce que le centimètre qui sert à mesurer la mort d'un enfant, celui-là, il sort de cette salle. Il est tellement énorme qu'il n'y a plus rien qui tient. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi des petites choses et apprendre à reconnaître aussi que si nous avons pu être déçus par des personnes proches dont nous attendions quelque chose, nous avons aussi pu être émerveillés par des gens que nous ne connaissions absolument pas et qui ont trouvé la parole juste, le geste juste. Vous avez probablement fait cette expérience. Hein. Donc voilà, il faut apprendre, il faut garder cet émerveillement, je trouve. Il y a des gens dont on n'attend rien du tout et qui nous aident. Comment ça se fait, ça ? Et nous pouvons aussi, nous, être sur le chemin des autres, ces gens-là. Jonathan, je pense que vous êtes ces gens-là. Hein. Voilà. Toutes ces démarches concrètes, elles vont nous permettre de passer du souvenir à la mémoire. C'est Jean-Marie Petitclerc, qui est un éducateur, qui est prêtre aussi accessoirement, je crois, qui s'occupe de jeunes et qui a écrit un livre sur le suicide des jeunes, qui est un très beau livre, et qui dit « Faire son deuil, c'est en quelque sorte apprendre à passer du souvenir à la mémoire. Le souvenir enferme dans le passé. Il ne tarde pas à prendre l'allure de regret. Et les regrets ne tardent pas à avoir le goût de remords. » Et la culpabilité qui se pointe. Hein. La mémoire, par contre, projette dans l'avenir. Faire mémoire d'un jeune, c'est se remémorer tout ce que l'on a partagé de fort avec lui. Et ce partage continue de nous rendre forts aujourd'hui. Et c'est lui, l'éducateur, qui dit ça. Le souvenir est générateur de mélancolie, La mémoire est génératrice de dynamisme. C'est ce passage du souvenir à la mémoire qu'il faut entreprendre si l'on veut peu à peu reprendre goût à la vie. Et ce passage du souvenir à la mémoire que nous devons faire si nous voulons être reliés à nouveau avec les autres. Voilà, en conclusion, parce que je voudrais avoir du temps pour parler avec vous, c'est au cœur de la relation avec les autres qu'on construit notre existence. Nous sommes des êtres de relation. C'est pas tout seul qu'on avance, c'est pas tout seul qu'on grandit dans la vie. C'est vraiment au cœur de la relation avec les autres qu'on enrichit notre existence. On se disait tout à l'heure, avant, pendant le repas, que moi je crois fort aux rencontres et que j'ai l'impression, à mon âge canonique et avancé, que ma vie n'est plus faite, a été faite de ça, de rencontres. De rencontres qui l'ont fait changer. Ça a changé le cours de la vie. Les liens que nous tissons nous maintiennent dans le sens de la vie. Ils sont source de richesse. Et ne plus être en lien, ça introduit une énorme pauvreté dans notre vie avec le risque de s'enfermer dans sa douleur. Il y a des gens qui sont enfermés dans leur douleur, ça existe. Et la tentation du repli, elle est tellement naturelle quand la souffrance qu'on éprouve ou la douleur qu'on reçoit dépasse complètement, comme dit Geneviève Jurgensen, nos capacités d'absorption. On ne peut plus absorber. C'est à nous de décider de construire à partir de la mort de notre enfant. J'ai bien aimé cette phrase d'un papa dans un groupe qui me disait « Notre passé est noir, notre présent est gris. » C'était gentil de le mettre gris, parce qu'il était souvent noir aussi. « Notre avenir sera peint de la couleur que nous choisirons. » Ce qui veut dire que nous tenons encore le pinceau, que personne d'autre ne peut le tenir à notre place. Autrement dit, nous pouvons prendre les rênes de cette aventure, choisir de nous faire aider si c'est indispensable pour avancer, mais c'est nous qui avons les rênes. Et nous ne pouvons prendre cette décision qu'après avoir pris le temps d'entrer vraiment dans le processus du deuil, de regarder en face cette douleur indescriptible, qui n'a pas de mots, de l'absence définitive d'un enfant. De laisser aussi cet enfant nous montrer la voie, quelquefois. Lui qui avait telle ou telle qualité, telle ou telle passion. Le nombre de parents que j'ai vus s'investir dans la passion de leur enfant, ça peut aussi être une voie, pourquoi pas. Mais donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps, donnons du temps à notre entourage, donnons du temps à notre famille, à nos autres enfants, etc. Pour préserver notre réseau de relations, il faut vraiment, et être capable de le reconstruire, il faut se donner du temps. Je vais terminer sur un proverbe moghol qui dit « Ne craignons pas d'être lent, craignons d'être à l'arrêt. » Car être à l'arrêt signifie ne plus être en lien. La restauration de votre réseau de liens, elle prendra du temps, elle se fera si vous en prenez l'initiative. C'est ça qui est difficile. Vous voyez, ça dépend vraiment de nous. Nous sommes acteurs là-dedans, nous ne sommes pas victimes. Nous avons été victimes de la mort de notre enfant, mais il faut sortir de cet état-là. Personne ne peut prendre à votre place cette décision d'être à nouveau en lien. Et pour terminer, je voudrais juste vous encourager à aller voir un film qui développe magnifiquement tout ce que je vous ai dit ce soir, qui est Rabbit Hole, en français Rabbit Hole, avec Nicole Kidman. Et c'est émerveillant la façon dont ce couple met en pratique tout ce que je vous ai dit ce soir. Rabbit Hole. Allez voir ce film, c'est magnifique. Et ça, voilà, ça montre les deux chemins, le masculin et le féminin, et ça montre la décision de cet homme de refaire route avec cette femme, la décision de cette femme de refaire route avec cet homme. Vous voyez, ça, je trouve, c'est vraiment magnifique. Voilà.